Bonjour à toutes et à tous, au menu du MAG aujourd'hui, chat. Alors, comme tous les vendredis, mais cette semaine, Emeline va nous parler du lapin, un petit animal qui se fait de plus en plus de place dans les foyers. Au menu du MAG aussi, notre rendez-vous hebdo avec le collectif pour la préservation des terres agricoles du Ruthénois, c'est juste après Broken Bells, The High Road sur CFM Rhodes.
That's all we hoped it was. A break from the warfare in your house. To each his own. The soldier is bailing out. He curled his lips on the bow. And I don't know if the dead can talk to anyone.
CFM Rhodes.
Bonjour à toutes et à tous. Nouvel épisode, le 7e de nos rendez-vous avec le collectif pour la préservation des terres agricoles du Ruthénois. Bonjour Thierry Touya.
Bonjour.
Vous étiez déjà dans nos studios la semaine dernière.
Je reviens.
Eh bien, très bien, c'est que ça vous a plu.
Oui, je vais essayer de ne pas me répéter.
Non, puis si vous êtes revenu, c'est parce qu'il y avait d'autres choses à dire.
C'est ça.
Avec vous. Alors, cette semaine, vous avez choisi de parler du rôle d'un parc des expositions et ses alternatives. Le parc des expositions en question, celui que vous avez dans le viseur particulièrement au collectif, on le rappelle, c'est le parc des expos de Malan.
C'est ça, c'est donc un projet Donc, je suis venu pour peut-être expliquer qu'est-ce que c'est que cet équipement.
Ouais, alors moi, j'ai envie de vous dire, Thierry, le rôle d'un parc des expos, ben, un parc des expos, ça fait des expos.
Exactement, mais vous avez tout à fait raison.
Bon, déjà.
Donc, à l'origine, en fait, c'était des simples halls qui avaient pour fonction de faire perdurer la foire locale, qui durait souvent une semaine ou même 15 jours. Donc, ils se sont beaucoup développés dans les années 80 et souvent en périphérie des villes, parce qu'il fallait de la surface pour les halls, mais aussi pour accueillir les parkings. Voilà, donc aujourd'hui, ce qu'on peut dire, c'est que ce modèle est un peu en perte de vitesse. Donc, ce sont des études de professionnels du secteur qui le disent, hein, parce que on note un recul des visites et une perte d'attractivité de ce type de foire commerciale grand public. Les modes de consommation évoluent. Et la crise sanitaire va peut-être accélérer ces tendances, quoi. Voilà, donc tout ça pour dire qu'en fait, aujourd'hui, quand on construit, puisque ça se construit encore, des parcs des expositions, en gros, il y a deux modèles. Donc, soit on garde les halls, comme avant. C'est le cas, par exemple, à Toulouse, qui est en train de... où il est peut-être déjà sorti de terre, un très grand parc des expositions. Mais dans ce cas-là, on les construit plutôt dans les grandes villes. Et comme à Toulouse, pour bénéficier en fait de l'aéroport tout proche ou d'une grande gare. Parce que là, on va viser des grands salons professionnels ou grand public, mais au niveau national ou voire même international.
Oui.
Voilà, alors dans les villes comme Rodez, qui cherchent ce type à s'équiper de cette manière-là, on va viser autre chose. On va viser un équipement multifonction. Donc il va permettre non seulement d'organiser des foires expo, mais aussi d'organiser donc des congrès, donc c'est ce qu'on appelle le tourisme d'affaires, et aussi des concerts et des spectacles, parce que ça permet de rationaliser l'investissement de départ, qui est quand même toujours assez important.
Rappelez-le nous, l'investissement.
Oui, alors c'est vrai que pour nous, c'est important, on le met souvent en avant. Donc le parc, s'il se termine, aura coûté au total 24 millions d'euros. Et ce que nous, on met en avant aussi, c'est qu'il va induire des frais supplémentaires parce que pour accueillir ces foules et le flux des visiteurs, il est nécessaire en fait d'avoir des services à côté, donc une zone d'activité et aussi des accès routiers. Donc par exemple, un nouvel échangeur, je crois qu'on en a déjà un peu parlé, puis on reviendra en parler plus en détail. Donc tout ça, ça fait beaucoup d'argent aussi puisque ça fait 23 millions de plus.
23 plus 24.
23 plus 24, voilà.
47.
Donc après, il faut s'y retrouver quand même, quand on investit tout cet argent.
Pour s'y retrouver, comme vous dites, l'idée c'est de ne pas miser que sur ces fameuses grandes expositions, c'est d'avoir un site qui puisse accueillir, être polyvalent, quoi, comme on dit.
Exactement, c'est ça, c'est la polyvalence. Alors pourquoi ? Parce que non seulement il y a l'investissement de départ qui est important, mais il faut peut-être aussi parler rapidement on parle chiffres, mais des frais de fonctionnement.
Ah oui.
Parce que nous, on a eu accès à l'étude qu'a commandé Rodez Agglomération, qui établit le plan de fonctionnement pour justement vérifier que c'est faisable, en fait, c'est une étude de faisabilité. Et dans ce document, on voit que les frais de fonctionnement, c'est-à-dire les charges fixes d'exploitation annuelles, sont estimés à 1 million d'euros.
D'accord, les charges fixes, c'est quoi ? C'est l'électricité ?
C'est ça, l'énergie, l'entretien, les salaires, parce qu'il faut, il faut un directeur, il faut des commerciaux, il faut des techniciens, et d'autres charges de type administrative, des contrôles, etc. Donc, il faut un plan de fonctionnement, il faut que le parc soit occupé, c'est-à-dire qu'on puisse le louer, qu'on puisse organiser des événements, de nombreux jours dans l'année pour couvrir ces charges d'exploitation. Voilà. Et donc, on ne peut pas se contenter de salons parce que, on va dire, si un tel équipement apparaît à Rodez, on pourra refaire une grande foire du type qui existait avant, une foire commerciale sur une dizaine de jours. On pourra organiser d'autres salons. Donc, il y en a qui ont lieu actuellement sur l'agglomération. Mais en fait, ce sont des salons qui ont lieu sur les salles existantes, par exemple à la salle des fêtes. Donc, se pose la question... Est-ce que les salons existants, qui se contentent donc on va dire de 1000 m² à chaque fois, auront besoin d'une surface de 3000 m², voire plus ? Et est-ce qu'aussi les organisateurs de ces salons, qui sont des acteurs locaux, pourront s'adapter aux tarifs de location des halls qui seront forcément beaucoup plus importants que les tarifs actuels de location de la salle des fêtes ou de l'Atrium à Aunay-le-Château ?
On peut l'imaginer.
Voilà, donc l'autre idée qu'on perçoit, puisque je vous rappelle que nous avons un petit peu creusé le sujet et rédigé un document d'information, quand on a lu les arguments qui étaient avancés dans le magazine de Rodez Agglomération qui mettait en avant donc, le projet du parc, ce qu'on a lu, c'est que Rodez Agglomération veut rayonner au niveau régional. Alors je cite... Les habitants d'une vaste zone comprise entre Toulouse, Montpellier et Clermont n'auront plus à se déplacer dans les métropoles régionales pour assister à de vrais concerts ou de vrais salons. On comprend qu'en fait, avec un équipement de prestige, on espère faire venir des gens de très loin. Parce que justement, il faut beaucoup d'événements et il faut du monde pour rentabiliser ce parc. Alors moi, dans ce que j'ai lu là, il y a un mot qui m'a un peu accroché, c'est le terme « vrai concert ». Bon, alors personnellement, je ne suis pas trop d'accord avec cette appréciation, puisque par exemple, moi je vais assez souvent au club à Rodez, c'est une petite salle, et j'assiste à des vrais concerts qui sont vraiment chouettes, et je suis très content qu'il y ait cette salle. Donc voilà, je ne suis peut-être pas le seul, je suis plus fan des petits concerts conviviaux que des très grands concerts.
Bon, le club, ce sont des vrais concerts, mais effectivement, vu leur jauge, 300 personnes, ils ne peuvent pas accueillir... de la vedette nationale.
Ah non, c'est pas les mêmes têtes d'affiche, exactement. Ouais. C'est vrai que c'est pas les mêmes créneaux, tout à fait. Ensuite, on peut aussi dire peut-être que les salles de l'agglomération, elles sont assez nombreuses, elles sont plutôt récentes, soit elles ont été construites récemment, soit elles ont été rénovées, et donc elles ont des jauges assez importantes, que nous on estime suffisantes pour une ville comme Rodez.
Alors les salles en question, c'est quoi? C'est la salle des fêtes de Rodez?
Il y a la salle des fêtes, il y a la salle de l'amphithéâtre à côté du musée qui nécessiterait une rénovation, mais ça tout le monde le sait et tout le monde le dit depuis des années. Il y a la salle de l'Atyrium à Aunay qui est récente.
Moins d'un an.
Il y a aussi à Olympe le 777, qui est une salle assez récente.
Donc, tout à fait.
Il y a l'espace Saint-Exupéry à la Primob, enfin la salle polyvalente du monastère. Donc toutes ces salles ont au moins 1000 m² de surface et ont des jauges de places debout pour les plus grandes de 2500 places, quoi, comme à l'Atyrium.
Et pour le projet de Parc des Expos, la jauge debout,
alors c'est vrai qu'on ne l'a pas dit, mais en fait ce projet à Rodez comportera deux halls. Un hall principal de 3000 m², un deuxième de 1800 m². Et donc, comme c'est un équipement qui se veut polyvalent, il y aura des gradins pour avoir des personnes soit assises et soit debout. Donc, 3000 personnes assises ou 5000 debout.
D'accord.
Voilà, donc la jauge est plus importante, mais pas non plus 10 fois plus importante que sur les salles existantes.
Donc, bon, vous n'êtes pas convaincu par cette idée même d'une salle polyvalente pour le projet de parc des expositions de Malan?
Alors, nous, ce qu'on dit, c'est que c'est un pari risqué, en fait, d'essayer d'attirer du monde de loin pour pouvoir rentabiliser cet équipement. Et pourquoi? Parce que dans l'étude de marché, il y a aussi, justement, c'est important, l'étude de la concurrence. Alors, j'en ai parlé la dernière fois, parce que le parc d'Albi est très proche, avec la 2x2 voies, il sera bientôt à 45 minutes. Mais on peut aussi regarder au niveau, des salles de concert. Donc, il y a les très grandes salles type Zénith dans les trois métropoles citées, d'accord. Mais il y a aussi des grandes salles dans les villes plus proches. Donc, il y a un Zénith à Albi avec 4000 places debout. Ça, c'est au sud. Au nord, il y a le Prisme à Aurillac avec 4000 places debout aussi. Alors, c'est vrai qu'à l'est, il n'y a pas de grandes salles.
À l'est, il n'y a pas grand-chose.
C'est un peu en Lozère, pour nos voisins de Lozère. Ils ne sont pas très nombreux, ils seront peut-être contents de pouvoir venir des grands concerts sur Rodez. Voilà. Ouais. Et alors, moi, j'avais envie de parler aussi de deux exemples intéressants à l'ouest. Donc, à l'ouest, on va trouver Cahors, où il existe un parc. Alors ça, c'est un parc vieillissant, puisqu'il a été construit à l'époque que je disais, ou la grande époque des parcs. Donc, ce parc, l'agglomération de Cahors, ne sait pas trop quoi en faire. Voilà, et donc il y a deux, trois ans, il n'y avait plus aucun événement qui était programmé dans ce parc parce que justement, il est plus très bien adapté et donc on ne sait pas trop comment le rénover. L'autre exemple intéressant, c'est à Montauban. Puisqu'à Montauban, dans le document de l'aglo, on peut penser qu'il y a un parc des expositions, mais en fait, non, il y a une salle polyvalente, Eurythmie. et qui vise en fait les trois fonctions dont j'ai parlé tout à l'heure, oui. Mais elle est beaucoup plus orientée spectacle.
Concert, oui, concert
c'est ça, avec bon une bonne ouais. acoustique, ça a été prévu pour. Donc, c'est une salle avec pour 3000 places, qui accueille aussi des congrès, donc tourisme d'affaires, ouais. Et qui peut, donc, quand on retire les gradins, accueillir des salons sur 1400 m². Mm-hmm. Mais du coup, c'est pas un parc des expositions, c'est pas un hall, c'est une salle qui est en ville, et c'est un peu ce qu'on propose, nous, sur Rodez. On pense que ce n'est pas la peine d'aller construire un parc des expositions très vaste en périphérie. On pense que là, le bon choix serait de rénover l'amphithéâtre pour en faire une salle polyvalente qui accueillerait beaucoup mieux les congrès, puisqu'il y a, je pense qu'il y a très peu de congrès, il n'y a pas de congrès qui ont lieu dans cette salle pour l'instant, c'est que des spectacles.
Ouais, ou du sport.
Et du sport, voilà. Mais comme il est prévu, ça on l'a vu dans la presse et ça a été annoncé par Monsieur le maire, de construire un gymnase en ville, on peut penser aussi que le sport pourrait aller dans un équipement dédié et justement que l'amphithéâtre pourrait servir plus à accueillir des congrès ou des spectacles dans de meilleures conditions.
Ça, c'est votre proposition alternative.
C'est ça.
À ce projet de parc des expositions de Malan contre lequel, enfin, sur lequel vous êtes complètement opposé. On rappelle que vous avez déposé un recours au tribunal administratif de Toulouse. Petit 1. Petit 2, la semaine dernière, on avait parlé de ce document que vous avez évoqué là, aujourd'hui avec nous. C'est 8 pages pleines de chiffres, d'informations autour du parc des expositions c'est de Malan. Ah, pourquoi vous rigolez?
Oh, parce que peut-être qu'il y en a trop.
Non, il y a de l'information. On va pas se plaindre d'avoir trop d'informations, Thierry. En plus, c'est des chiffres vérifiés. Vous servez même chez vos adversaires, entre guillemets, pour sortir ces chiffres. Donc, ce ne sont pas que les vôtres. Et alors, dernière fois, on était sur le point de commencer la distribution, soit sur les marchés, soit dans les boîtes aux lettres. Depuis la semaine dernière, on en est où? Ça a avancé ou pas? Ça a commencé?
Alors, ça n'a pas commencé. On se voit justement, on fait une AG ce samedi là.
D'accord.
Pour prendre des décisions.
Ah.
Mais bon, il va y avoir les vacances d'été qui coupent un peu. Je pense que tout va vraiment reprendre
à la rentrée.
À la rentrée.
Ah ouais, pas avant.
Septembre.
Parce que j'ai pas vu que vous l'aviez déjà. Pas diffusé, mais présenté en digital sur vos réseaux sociaux.
Alors tout à fait, on peut le télécharger.
Ah, voilà.
Et puis on l'a envoyé à tous les candidats au départemental.
Ah.
Donc même ceux qui n'ont pas répondu, on peut espérer qu'ils ont entendu parler
du document
de nous, de l'association, et aussi ceux qui se sont intéressés au projet, ils l'ont reçu par mail et donc ils peuvent regarder nos arguments alternatifs. Voilà. Et on a eu aussi des réponses de la part de certains candidats, dont certains vont rejoindre là ce samedi notre association.
Ah d'accord.
Donc voilà, oui, des gens justement des gens compétents. Donc on a quelqu'un qui est très compétent en juridique, ouais. En droit de l'environnement, qui va venir nous aider. Donc on est très content de ça. Elle va même nous former.
Très bien. Je rappelle que le collectif pour la préservation des terres agricoles du Ruthénois est donc sur les réseaux sociaux, on l'a dit, pour suivre votre actualité, vos informations, et puis pourquoi pas aussi contribuer encore à la cagnotte pour le tribunal administratif.
C'est ça, donc on a, je vous donne une info, peut-être un scoop.
Ah bah allez-y.
On a pu payer donc l'avocate pour ce recours.
Mais, elle doit être contente.
Voilà, donc, mais on demande aux gens de continuer à nous aider puisqu'il y aura des actions supplémentaires qui sont prévues. Par contre, je reviendrai pour vous en parler, mais il nous faut encore de l'argent.
Ah, c'est-à-dire vous allez balancer les tracts par avion. Ah bah non, par avion, c'est pas très...
Non, ça c'est pas trop notre mode de fonctionnement.
Non, ça correspond pas. Bon bah écoutez, je vais essayer de réfléchir à ce que pourraient être vos idées. Et vos projets avant que vous veniez nous en reparler sur CFM.
C'est ça.
Merci beaucoup Thierry.
Merci à vous.
CFM Rodez le mag, à suivre après Aîné pour la musique, Emeline, Chalor, cette semaine, Le Lapin.
She looked at me, meant something as usual. Now we're finally alone. I wonder all along if there's something wrong. I'll make sure she's okay. I'm so happy she came. I feel her eyes about me.
nothing wrong with me. I don't need to worry. It's not about me. We walk downtown, have a drink or two. Time flies when she's with me. I could stay there forever. I make sure she's okay. I'm so happy she came. I feel her eyes about me. I bend for a kiss. She shuts her eyes.
Bonjour, Emmeline Blanc-Gauthier, je suis consultante en comportement, spécialiste du chat, et j'ai complété mes connaissances par le comportement du lapin. Cette chronique chat alors sera dédiée à ce NAC, nouvel animal de compagnie qui occupe la troisième place dans nos foyers. Parlons de son lieu de vie. Le lapin est un mammifère sensible à la chaleur car il ne transpire pas. Il ne supporte pas les températures supérieures à 28 degrés et un coup de chaud peut lui être fatal. La température idéale se situe entre 14 et 17 degrés. Aussi, installer son logis à l'intérieur est le meilleur choix. Sa cage sera positionnée dans un endroit de la maison qui le protège des courants d'air pour éviter des infections bactériennes comme le coryza. Les ventilateurs et la climatisation sont à proscrire. Sa cage devra permettre au lapin d'exprimer ses comportements. Elle devra faire au minimum 60 sur 90 et 45 cm de haut. Le lapin doit pouvoir se mettre debout. La cage disposera de cachettes, de hauteur et d'une latrine pour ses besoins. La latrine sera disposée à proximité de sa nourriture, car le lapin défèque en même temps qu'il mange. Le lapin devra sortir plusieurs heures par jour pour ses besoins locomoteurs. Aussi, le propriétaire devra s'assurer que le lapin est en sécurité et peut se mettre en hauteur. Le lapin est herbivore, il mange des végétaux tendres. Il n'a qu'un seul estomac qui peut accueillir 90 à 120 grammes d'aliments. Et il peut manger jusqu'à 40 fois par jour. Même si le lapin n'est pas un rongeur, il doit ronger car il est hypsodonte. C'est-à-dire que ses 28 dents poussent tout au long de sa vie. Le foin, riche en fibres, lui permet d'user ses dents. Il doit donc avoir du foin en permanence. Les granulés seront donnés en petite quantité car elles ne permettent pas l'usure des dents. Le lapin attrape la nourriture avec ses pattes avant. Aussi, celle-ci peut être mise en hauteur pour proposer au lapin de se mettre debout. Il l'attrape ensuite au sol avec ses incisives. Le lapin mange des végétaux, fruits et légumes. Certains, comme la carotte, sont donnés avec parcimonie car riche en sucre. La tomate et les crucifères provoquent des ballonnements. Il boit entre 50 et 150 ml par jour et par kilo. Dans son biotope naturel, le lapin baisse la tête vers le point d'eau, aspire, relève la tête puis effectue des mouvements de la mâchoire et de la langue. C'est pour cela qu'il est préférable de mettre un bol d'eau plutôt qu'un biberon où le lapin doit pousser une bille pour boire. En cas de forte chaleur, il est possible d'hydrater son lapin en lui donnant des aliments riches en eau tels que pastèques ou melons. Le lapin possède un comportement alimentaire spécifique aux lagomorphes, la sécotrophie. Il réingère un des deux types d'excréments qu'il produit au moment de leur émission. Les aliments ingérés par le lapin sont riches en cellulose. Celle-ci n'est pas facilement assimilable par la muqueuse de l'intestin. Elle est dégradée dans le cécum, poche de l'appareil digestif spécifique. Une fois éjectés, les cécotrophes sont réingérés pour profiter de tous les nutriments. Ce comportement n'est pas vital, il occupe 2% du budget temps. Les nutriments sont importants lors de la gestation, la lactation et la croissance. Il ne faut pas empêcher le lapin de le faire, c'est un comportement naturel. J'ai encore plein de choses à vous dire sur le lapin. Ce sera pour une nouvelle chronique Chat Alors sur CFM Radio.
Merci Emeline et à la semaine prochaine. C'est la fin du Mac pour aujourd'hui. Bonne fin de journée à toutes.